Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
On est de retour dans Dupont le matin. C'est mardi aujourd'hui, 28 mars 2023. Quand même, plusieurs événements ont marqué l'actualité au cours des dernières heures. Il y a des éléments politiques que je qualifie des fois de plates, mais je comprends que ce soit nécessaire en parlant du budget fédéral qui s'en vient. Et également, évidemment, des histoires tragiques comme hier soir, la policière de la Sûreté du Québec qui a perdu la vie du côté de Louisville, après une intervention où elle a été poignardée et décédée suite à une chute. En tout cas, on verra pour en savoir davantage. Il y a eu également dimanche, cette tragédie là à Saint-Ubalde-d'Emportneuf, où une jeune fille de 9 ans a perdu la vie. Mais hier, encore une fois, aux États-Unis, puis là, j'ai perdu le fil des fusillades depuis le début de l'année.
129.
Non, c'est 129 fusillades multiples, donc, qui sont survenues aux États-Unis depuis le début de l'année 2023, dont une hier qui a éclaté dans la région de Nashville, au Tennessee. Et pour en parler avec nous, c'est des amis, c'est des gens qui ont habité ici, la région de Québec, du côté de la Rive-Sud, entre autres. Son père, Robbie Johnson, est mon ami, puis sa mère aussi, qui sont très présents, puis à qui on parle très, très souvent. Mais là, elle est étudiante universitaire. Elle habite la région de Nashville et elle était tout près hier de cet incident où les armes à feu sont encore venues en ligne de compte dans une école primaire. Donc, pour en parler avec nous, on accueille Rosalys Lachance. Rosalys, bon matin.
Bon matin.
Comment tu vas, toi, ce matin?
Un peu ébranlé de la situation, mais sinon, tout va bien de mon côté.
OK. Toi, tu vas à l'université, dans une université qui est, j'allais dire privée, malgré les universités américaines sont tous privées, là, mais qui est tout près de l'école primaire où est arrivé le drame d'hier.
Oui, exactement. En fait, mon université est privée. Je sais que c'est tout privé, mais ça, c'est comme privé-privé. C'est comme privé-privé. Puis, elle est chrétienne aussi. En fait, l'école dont la tragédie est arrivée, le Covenant School, est à 5 minutes de mon université à moi.
OK. Est-ce que les communautés religieuses qui sont impliquées dans ces deux écoles-là, c'est la même communauté? Parce que c'est vraiment des écoles, autant ton université que l'école primaire, tu l'as dit, c'est un caractère religieux, c'est-tu la même affaire?
En fait, ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de quelle église que tu vas. Il y a des églises qui sont reliées à Belmont, il y a des églises qui sont reliées à cette école primaire-là. Ça dépend vraiment de quelle église que tu vas. Mais c'est pas mal plus individuel que institutionnel.
Je comprends très bien. OK, le choix est personnel. Maintenant, comment t'as vécu ta journée d'hier? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as appris? Raconte-nous le fil des événements.
Tout a commencé quand j'étais dans l'aire commune de l'école. J'étudiais, puis il y a des sirènes qui sont parties, mais c'est quelque chose de commun en Nashville d'entendre des sirènes une fois dans ta journée, mettons. Là. Fait que j'ai pas fait de cas, puis après ça, j'ai entendu des murmures dans la salle commune qui disaient « Ah ouais, il y a une fusillade », mais jamais dans ma tête que j'aurais pensé que c'était proche de moi. Puis par la suite, je suis allée à mon cours de midi, mon cours de Bible, en fait, c'est Bible Studies. Puis là, c'est là que j'ai appris que la fusillade était à 5 minutes de mon école. Puis là, mon prof, il était vraiment ébranlé par la situation parce qu'en fait, son meilleur ami, ses enfants allaient à cette école-là, vont encore, mais là, on n'a aucune information là, sur si ces enfants-là faisaient partie des 3 enfants décédés à la tragédie d'hier. Fait que,
donc, ça a, ébranlé un peu l'atmosphère de la classe. Est-ce que les classes ont continué ou si il y a eu un arrêt et tout le monde était renvoyé à la maison?
Il y a eu un service là. Ils ont fait une petite cérémonie à la Bell Tower qu'on appelle là, à 4 heures durant l'après-midi, mais à part de ça, les cours ont continué, sauf si les gens étaient personnellement impliqués dans la tragédie. Là, je connais des gens qui sont pas allés en cours. Ça dépendait vraiment de chaque personne, mais les cours étaient pas annulés.
Les gens qui vont à l'école, à l'université avec toi, les Américains là, d'origine qui sont là puis qui voient, on a parlé de la 129e fusillade là, hier, donc je vous rappelle que ça a fait 6 morts, 3 enfants et 3 membres du personnel. Ils disent quoi là? Est-ce que les armes à feu, c'est moitié-moitié, c'est mitigé? Est-ce que c'est un débat qui revient ou c'est la normalité pour tes collègues de classe?
Ce que j'ai ressenti dans la communauté dans les dernières heures, là, c'est vraiment de la tristesse, mais beaucoup de colère envers les règlements d'armes, surtout là. J'ai vu beaucoup de personnes en colère envers plus le gouvernement parce que les lois pour eux sont pas assez sévères, surtout au Tennessee, là, la loi sur l'arme est vraiment est contrôlée, mais pas mettons comme au Canada là. C'est vraiment deux mondes complètement différents. Mais aussi j'ai aussi vu de la colère envers plus le mental health là, parce que c'est quelque chose qui est quand même un peu pas, je dirais pas tabou, mais c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup mettons à Nashville là. C'est plus les gens sont plus réservés là-dessus là, fait qu'il y avait une tristesse envers les gens qui avaient besoin d'aide mentalement, puis aussi une colère envers ces lois d'armes-là qui sont pas prises en charge.
Très bon point.
Correctement.
Très bon point, Rosalie. Ça fait quand même plusieurs années là que tu es établie à Nashville. On s'était rencontrés là ça fait déjà plusieurs années.
Ouais.
Est-ce que ça, tu sais, tu parles de santé mentale, puis c'est drôle, puis je le vois à Québec moi aussi, puis ça me frappe à chaque fois. Là, ça fait longtemps que je suis pas allé chez vous, mais est-ce qu'il y a de plus en plus de sans-abri? Est-ce que tu vois un peu plus de troubles de santé mentale? Tu sais, c'est tellement festif, c'est tellement touristique maintenant, Nashville. Est-ce que ça l'a augmenté à travers les années, selon toi?
Niveau sans-abri, je pense que on est pas mal au même nombre de personnes. Je vois pas mal tout le temps les mêmes gens sur les rues parce que je côtoie Nashville à chaque jour. Santé mentale, c'est vraiment difficile à dire parce que comme j'ai dit, les gens sont tellement réservés que c'est difficile de voir si quelqu'un a besoin d'aide ou pas. Je dirais que c'est les femmes, c'est un peu plus facile à détecter, mais si les hommes, ils ont vraiment cette image-là de tous les stéréotypes qu'on pourrait relier aux hommes, là, ils les prennent vraiment à cœur. C'est pas d'émotion. Ils ont vraiment ça, les Américains, là, ils veulent vraiment être fiers. Fait que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus chez les hommes qu'on voit.
Je comprends.
Qu'on voit ça, cette retenue-là. Là.
Hier, le drame, par contre, a été causé par une femme de 28 ans qui a été abattue. Qu'est-ce que t'on sait davantage? T'en as-tu su davantage? Puisqu'ici, on n'a pas su grand-chose. Qu'est-ce qui l'a amené à frapper à cette école-là et à frapper de cette force-là? Là?
Oui, ben en fait, il y avait un manifesto. On a su que cette jeune femme-là avait côtoyé l'école dans les années précédentes, mais on sait pas en quelle année qu'elle était là, puis ces informations-là, mais elle avait un manifesto.
C'est quoi un manifesto? Je comprends pas.
Ben, dans le fond, elle a des raisons d'avoir fait ça. Je dis pas que les raisons sont bonnes, là. Je dis que ben, un manifesto, c'est ça, dans le fond, là.
Okay, elle a écrit les raisons pourquoi
elle a fait ça. Ouais, exactement.
Okay.
Mais on n'a pas accès à ça encore, là. Les polices sont encore en train d'investir. aussi.
Oui, je comprends, mais ta mère m'a envoyé justement un vidéo. La police a été très rapide. Là, on voit l'arrivée de la voiture de la jeune femme.
Ouais.
On voit vraiment tout. On la voit tirer à travers les portes. Pour que,
ouais.
Puis elle ouvre même pas les portes. Là, c'était peut-être même pas barré. Elle tire carrément à travers les portes pour entrer dans l'école. Fait que, est-ce qu'aujourd'hui, on est de retour à la normale, en tout cas, à votre université puis à votre école, malgré le branle-bas de combat à Nashville?
Ben là, je suis pas encore allée à l'école. Mes cours sont plus tard dans l'avant-midi. Fait que j'ai bien hâte de voir comment les gens vont se comporter là, après cette tragédie d'hier.
Bon, tu vas à l'université à Nashville et moi, je sais personnellement que tu es également une Ice Girls des Prédateurs de Nashville.
Oui.
ça fait déjà un petit bout de temps. Que comment ça a commencé, cette aventure-là, avec un des... Tu sais, ça reste que les Prédateurs, c'est quand même un des événements majeurs dans le point touristique de Nashville. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça?
Quand j'étais plus jeune, j'allais voir les games des Prédateurs, puis je m'étais tout le temps dit, ah, j'aimerais ça faire ça. Je voyais les filles patiner sur la glace, j'étais là, ben, ça a donc moins l'air le fun, puis je faisais juste parler pour parler dans ce temps-là, là. Mais là, quand mes 18 ans sont arrivés, puis que j'ai vu que la COVID, dans le fond, quand j'ai eu 18 ans, c'était pendant les bulles, fait que j'ai pas demandé de faire la saison. Là. Je me suis dit que ça n'allait pas être tant le fun que ça. Là. Mais après que la COVID, le bas de COVID soit passé, j'avais un ami qui patinait avec moi qui avait fait cette même job-là. Fait que je l'avais contacté pour avoir le contact en fait de mon boss aujourd'hui. C'est ça, il m'a engagé par cet ami-là que j'avais, puis ça fait maintenant deux saisons que je travaille pour eux.
Donc, à chaque match, tu faisais déjà, tu étais ici au Québec, tu as été dans un programme de patinage artistique en sport-études.
Oui.
Hein?
Oui, exactement.
Donc, quand ça t'intéresse de faire ça, tu contactes ton boss actuel. Est-ce qu'ils te font patiner puis ils te regardent patiner? Est-ce qu'il y a une évaluation qui avait été faite?
Techniquement, ils font des entrevues puis tout. Moi, j'ai fait l'entrevue papier, mais vu que j'avais déjà mes grades de patin, ils m'ont pas fait d'entrevue de patinage en fait là. Ils m'ont juste engagé.
Donc,
ils te regardent patiner. Ils te regardent patiner les deux premières games pour voir t'es comment là. Puis après ils te mettent sur l'horaire de façon permanente là, mais c'est
ça. Fait que vous allez sur la glace quoi deux fois par période, puis vous avez en réalité c'est pour ramasser les surplus de neige, c'est ça votre travail là, c'est pas d'aller là avec des pompons puis de faire danser la foule.
En fait, on a deux crews, moi je suis dans Ice Crew, puis on a l'Energy Crew qui est plus dans les stands avec leurs pompons.
OK.
Justement. Je vais lancer des chandails en début de période, après chaque période, puis à la fin, si on gagne, ça va être moi qui vais aller ramasser les catfish. C'est moi qui ramasse la neige sur la glace. On sort trois fois par période. Si on a les temps de télé, là, des fois, ça varie. Là, ça dépend des arbitres.
Et ça, c'est une affaire particulière à Nashville. Ça veut dire quand l'équipe gagne, il y a toujours un spectateur qui tire un poisson-chat sur la patinoire.
C'est pas nécessairement quand il gagne, c'est plus une signification de bonne chance pour l'équipe. Habituellement, ils vont lancer le poisson avant la première période, juste après le National Anthem. Ça arrive quelques fois que ça va être lancé avant une remise en jeu pendant la période. Mais c'est principalement pour souhaiter bonne chance à l'équipe.
Mais c'est un vrai poisson ou c'est un toutou?
C'est majoritairement des vrais poissons. J'ai déjà eu une coupe de toutous, mais c'est plus des vrais poissons.
Là, hein. Tu ramasses ça à main nue? T'as-tu des gants?
Ça m'intéresse. Non, j'y vais à main nue. Sauf si j'ai un bobo, là, je m'arrange pour me taper le doigt, là, mais Ça demande un gros lavage de main, là.
Je viens de montrer ta photo.
Ça sent pas la
rose. Oui, c'est ça. Je viens de montrer ta photo à Karen, là, où t'es allé en ramasser déjà. Fait que, hey, comment se passe? As-tu des interactions avec les joueurs? Vous sentez-vous un peu impliqué avec l'équipe ou il y a là une séparation complète?
Techniquement, il est supposé avoir une grosse séparation entre les joueurs puis le personnel. Nos joueurs, par exemple, sont vraiment reconnaissants de faire partie du club, sont vraiment gentils. Fait que il y en a quand même qui vont venir nous dire salut. Mais dans le fond, la façon que l'aréna est faite, là, où que nous on est, où que la Ice Crew est, la Zamboni Room puis tout ça, on est vraiment à l'opposé du tunnel, mettons, de nos joueurs. On est à côté de l'équipe adverse, en fait. Fait que le contact est là, mais il va pas difficile à faire.
Cool. Fait que, hey, merci beaucoup d'avoir partagé ce que tu as vécu dans la journée d'hier. Bon courage pour la reste, pour la suite des choses. Et peut-être une participation aux séries pour les Prédateurs. Qui sait? Alors, on verra peut-être à travers ces matchs-là. Merci beaucoup d'avoir pris du temps.
Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.
Au revoir. Rosalys Lachance habite Nashville. C'est la fille à Robbie Johnson et à Pierre-Anne Lachance, mes amis de la Rive-Sud, qui sont à Nashville. Elle va là-bas dans une école. Je savais pas qu'il y avait une université. Je l'ai appris hier, ça. Donc, l'école primaire était une école où la fusillade a eu lieu. Une école très, très religieuse et catholique. Et même chose, l'université, donc, qui est à 5 minutes juste à côté, c'est la même affaire. Puis, tu sais, Rosalys qui me dit, écoute, j'avais un cours de Bible hier. Ouais. Donc, tu sais, vous voyez que la religion est très, très impliquée, même rendue à un niveau universitaire là-bas.
Puis, God and Guns. C'est ça pour beaucoup d'Américains.
Ouais.
Dieu et les armes.
Mais c'est drôle, j'avais un peu l'impression dans ce que Rosalys nous disait que ben des jeunes sont un peu frustrés du laxisme, donc du port d'armes qui est free will pour tout le monde et puis que tu sais à Nashville, j'ai pas souvenir que ça se promenait avec des guns là, comme j'ai vu au Texas là, c'est vraiment dans une classe à part. Mm-hmm. Mais tu sais c'est incroyable, la majorité, ou en tout cas la quantité de monde qui a un revolver chargé dans la table de nuit. C'est ça, là.
En dessous du char, en dessous du banc de char aussi.
En dessous du banc d'auto, parce qu'ils peuvent se promener avec. Ils peuvent pas rentrer avec dans les commerces, mais ils traînent quand même. Ça veut dire quand il y a des fois, il peut y avoir une altercation, puis qui amène un peu de frustration, c'est là que les guns sortent, puis que ça tire du gun.
Mais dans le cas d'hier, c'était planifié, ça, là.
Oui, ça,
madame, elle voulait mourir, c'est ce qu'elle dit dans son memento, là.
Ouais.
Elle dit qu'elle voulait mourir, elle s'en allait mourir.
C'est
un graphiste qui a une fascination pour le film Shining de Stanley Kubrick. Ouais. C'est ça.
C'est quoi qu'il y a dans ce film-là, donc?
C'est des meurtres en majeure partie. Là. C'est Jack Nicholson, l'acteur principal. C'est un de ses beaux rôles, je pense, dans sa carrière.
C'est basé sur un roman de Stephen King. C'est pas des meurtres, nécessairement. C'est un hôtel hanté.
OK, OK.
Il est alcoolique, puis il vire un peu fou.
OK, OK.
Hein, un peu?
je connais pas le film.
Ah, c'est l'image que tu as sûrement déjà vue, c'est la porte qui est fendue, puis tu as la face de Jack Nicholson à travers qui a l'air
timbré. Johnny.
Non? J'écoute juste des documentaires.
Oh.
Oui, Karen.
L'homicide, là, c'est la principale cause des décès chez les enfants aux États-Unis.
Ouais.
Ça fesse, là.
C'est hot, hein? Moi, je vous le dis. Il y avait. Quand tu traversais, je l'ai raconté à plusieurs reprises, quand tu sortais du métro à Boston pour aller aux Red Sox, tu traverses l'autoroute, là, puis il y a un immense mur le long de l'autoroute, parce que l'autoroute est un peu plus profonde que le stade de baseball, et il y a un tableau là où il y a toujours des messages quand même assez importants. Puis c'était écrit, la statistique, si je fouillais dans mes photos, je le retrouverais, là, le nombre de morts aux États-Unis, puis le nombre de morts par arme à feu. Puis je disais, mais voyons, ça n'a pas bon sens. C'était plus que... Je me demande si c'était pas les trois quarts. Fait que, tu sais, il y a vraiment là un problème majeur qui semble pas vouloir se résoudre. Le lobby des armes à feu est tellement fort qu'on semble pas vouloir agir.
C'est incroyable.
Dans ce sens-là.
J'adore la culture américaine, c'est la culture que je connais le plus. Mm-hmm. OK? Là où je suis le plus allé en voyage dans ma vie, c'est aux États-Unis. Mais je suis pas capable de comprendre qu'il y a mieux bannir les shows de drague pour protéger les enfants. parce qu'on est en train de faire ça. Là.
Les drag queens?
Oui.
Sérieusement?
Oui. Okay. Il y a des États qui veulent, entre autres la Floride, je pense, qui veulent interdire les shows de drag pour pas... Ils ont peur des que ça influence les enfants, mais ils agissent pas ces armes. C'est pas les drag queens qui tuent vos enfants, c'est les armes. C'est les armes semi-automatiques, pas automatiques. Depuis des années. Puis c'est... Je comprends juste pas. C'est loin de nous autres, faut croire. Peut-être que si on avait ça dans notre constitution, nous autres, le droit au port d'armes, ça serait plus quelque chose d'inné, mais je comprends pas.
Ouais, mais dans l'ensemble des directions que prend le Canada, par exemple, dans son entièreté, là, c'est davantage vers la gauche que d'être de retourner vers des politiques redneck et des politiques de droite. Fait que même si les armes étaient tolérées, par exemple, je sens pas qu'il y aurait une libération. Et là, souvent, quand vous me parlez des États-Unis, l'autre jour, l'avortement est revenu. Le droit à l'avortement. Là, tu me parles de l'affaire des drag queens. Ouais. C'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça. J'en reviens pas qu'on pense à ça.
Il y a un État, cette semaine, qui a ramené la peine de mort par fusillade.
OK.
Ça fait-tu 2023 dans ta tête ou ça fait 1940?
Juste de ramener la peine de mort déjà là.
Oui, mais par peloton.
Par peloton de fusillade?
Oui.
Wow. C'est très particulier. Qui c'est qui va tirer du gun dans ça, là? Tu comprends? As-tu pensé les dommages collatéraux qui peuvent être faits par ça? Ouais, beaucoup de problèmes du côté des Américains à régler. Ça, c'est très, 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 très clair. Bon, là-dessus, ben, on va s'arrêter.
Le Portneuf de Karen est passé où?
Le quoi?
Le Portneuf de Karen est passé où?
C'est quoi le Portneuf?
Ben, une fille de Portneuf n'a pas peur de prendre un poisson dans ses mains, certain.
Ah non, mais moi, j'ai une phobie des poissons, là. Hey, même un poisson rouge, ça me fait peur, là. Alors, si pour vrai, là, tu veux me terroriser, amène un poisson congelé, je vais courir dans toute la station, là.
Congelé?
Oui, même congelé, emballé, là. Oh,
parce que moi, je l'ai vu, Rosalys, je l'ai vu aller ramasser des catfish en vidéo, là. Il y en a un, une fois, là, ça prenait ses deux mains, là. Oui. Il était gros en joie le vert. Puis, tu sais, puis c'est coulant, ça. Il est mort, mais il est coulant. Puis, lorsqu'elle débarque sur le tapis de la porte de la Zamboni, là, il y a comme une poubelle là, pour qu'elle mette le poisson dans ça. Puis, tu sais, elle l'échappe pas, mais tu vois que...
Il
gigote pas, mais...
Non, mais c'est gluant.
C'est doit être dégueulasse, certain. Puis, un autre coup, il en avait deux. Il en avait tiré deux petits. Fait que
ça, c'est comme les pieuvres à Détroit, il n'y a pas si longtemps même. Hein?
C'est ça.
C'est des vrais de vrais legit pieuvres.
Oui, c'est sans glace.
T'aimerais mieux un vrai catfish qu'un catfish Internet qu'un catfish...
Ah, je pense que oui.
Ça, la pieuvre, ça a 8 tentacules. C'est pour ça que ça a commencé comme ça. Là. Parce que quand tu devais gagner la Coupe Stanley à l'époque, il fallait que tu gagnes 8 matchs. Puis c'est là que c'est parti. Tirer une pieuvre sur la glace.
OK. Après ça, les autres animaux qu'il y a eu d'être lancés?
Il y a eu les rats en Floride.
En Floride. Ça, c'est l'année de l'avalanche, donc c'est en 96, 97?
Oui. 95-96. 95-96?
Oui, le but de Huey Croup. OK. Donc, et là, il tirait des rats, mais en plastique.
Des rats en plastique.
Ouais, c'est ça.
Mais il y en avait en joie le vert.
La glace était pleine.
Je me souviens d'avoir vu Patrick Roy à la télévision se cacher dans le but parce que ça tirait des rats partout. Fait qu'il y avait des rats en plastique, c'est ça. Au Colisée, c'était des vrais rats.
Mais ils étaient des vrais rats, ils sont encore là.
T'as pas capable de dépoigner. T'as pas capable de dépoigner.
J'ai pas de raison de croire qu'ils sont plus là.
Non, non, non.
Ah ouais, c'est là.
Patrick a dit qui rira le dernier.
C'est ça.
C'est lui qui a ri le dernier.
C'est Idaho qui ont ramené les pelotons d'exécution.
Ah ouais. On évolue vraiment dans la bonne direction. Hein? Yeah.
Il y a plus que jamais deux États-Unis. Au minimum deux États-Unis. Ouais.
Tu sais, quand je vous le dis dans mes émissions de débiles que j'écoute, c'est l'accès à l'arme à feu qui fait que j'écoute des reportages sur des gens qui ont tué et leurs voisins ou leurs conjoints. Tu sais, amour fatal, les titres peuvent varier d'un à l'autre, mais ça finit tout pareil. Par des meurtres, parce qu'accès aux armes à feu, il y a souvent... deux types de personnes qui sont mêlées dans mes histoires. Puis peu importe lequel type d'émission, là, souvent avec, mettons, des triangles amoureux, évidemment, chicanes de voisins, outre les triangles amoureux, il y a beaucoup pour l'argent, donc riche mais mort, tu sais. Donc, il y en a plein de... Et dans chacun des cas, accès facile aux armes à feu, et des types de personnes vont être souvent soit des... des genres de preachers. Tu sais, je peux pas appeler ça un curé. Comment ils appellent ça, eux autres?
Pasteurs,
un prédicateur.
Oui, ou pasteur, c'est ça. Ils ont un certain titre, mais ils ont des, ils sont le pasteur de la communauté, comme le curé de la communauté, mais il est marié avec des enfants, mais il a trois maîtresses. Tu sais, ben, lui, il enseigne le droit chemin. Fait que, et quand il est pour se faire pogner, il va aller à l'acte maximum. Et aussi, l'autre branche qu'on voit trop souvent, c'est des anciens militaires. Donc, des gens qui sont allés à la guerre, qui sont revenus avec un équilibre douteux et qui vont commettre des actes terribles. Alors voilà, c'est assez pour les mauvaises nouvelles. Il est 8h32, vous êtes dans Dupont le matin.
J'ai écouté Dupont le matin l'autre jour. C'est vraiment... Hein? 93. Dupont le matin. As-tu deux minutes?
Il y a une proposition qui sera présentée lors de l'Assemblée générale des membres du syndicat des professeurs de l'Université Laval demain. Donc, les 1300 professeurs en grève générale illimitée ont reçu une recommandation de règlement du conciliateur et selon le président du syndicat, ben, l'offre serait suffisante pour régler de manière satisfaisante pour les membres. On se rappelle que la grève générale illimitée dure depuis le 13 mars. Donc, ça pourrait prendre fin si l'entente est entérinée par les deux parties.
Au gouvernement provincial, une hausse de salariale serait offerte de façon additionnelle aux gens qui travaillent pour l'État et qui gagnent moins de 52 000 $. On est en négociation actuellement, donc une grosse négociation pour les 600 000 employés de l'État. On ne sait pas quelle est la teneur précise de cette hausse salariale qui est offerte. C'est en plus des 9 % sur 5 ans qui ont été offerts. Bon, le gouvernement avance 13 ou 13,5 % sur 5 ans, tout dépendant de comment on interprète les chiffres. Mais ce montant-là, là, pour les gens qui gagnent 52 000 $ et moins, c'est en surplus de ce qui a déjà été offert pour l'instant.
Si j'étais membre du gouvernement, j'étais premier ministre, rien d'autre. Premier ministre au Québec, je pense qu'une des premières affaires que je voudrais qu'on adopte, vous savez, j'aimerais qu'on limite les règles et tout ça, puis là, je le vois, là, tout le monde négocie, là, les profs d'Université Laval, puis tout le monde veut améliorer son sort. Je comprends ça, puis je suis pas toujours d'accord, mais je suis capable de comprendre. Mais avant de m'avancer dans ça, j'aimerais qu'on protège les générations futures. J'aimerais ça que, tu sais, comme par exemple, surtout dans le cas de la nouvelle de Pierre, l'Université Laval, c'est différent, puis encore là, on entend juste des brides, puis on connaît pas la suite des choses. Mais au niveau gouvernemental, je comprends qu'il y a des gens qui gagnent moins de 52 000, puis là, l'augmentation de salaire offerte à ces gens-là serait autour de 9 %. Mais si on considère l'amélioration des avantages qu'on va offrir à ces gens-là, ça augmente ou ça améliore cette augmentation-là à 13 ou même à 14 % d'augmentation. Oui. C'est bien correct encore là. Sauf que avec l'évolution de la vie qui fait qu'on vit plus vieux et qu'on travaille moins, est-ce qu'on pourrait protéger nos générations futures en faisant que, je pense à du monde que je connais, qui se vante encore probablement ce matin, ils vont tous prendre le café au McDo, puis ils se vantent qu'à matin, c'est la, 153e semaine de plus qui sont retraités, qu'ils ont travaillé. Ça existe, là. Donc, quelqu'un qui a travaillé 25 ans à même endroit, ça fait 27 ans qu'il est retraité, full pension. Ça, là, ça vient scraper l'héritage de nos générations futures. Parce que lui, il va faire 27 ans, puis le prochain, il va faire peut-être... Il aura travaillé juste 22, puis il en aura fait 35, full pension. Il faut que le poids d'un citoyen, d'un travailleur, ne soit porté que par sa génération, et pas toujours par les générations futures. Vous pensez, là, vous autres, vous travaillez, puis vous dites, ouais, mais nous autres, on paye, là, pour les boomers qui sont à la retraite. OK. Mais là, on est en train d'allonger ça parce qu'on vit plus longtemps. On est en train d'allonger ça parce qu'on veut s'arrêter plus tôt. Puis les fonds de pension étant meilleurs, on même s'il y a une pénalité, on peut s'arrêter plus tôt. Donc, qui va supporter ce poids-là? Puis des intérêts, puis de l'augmentation de la pension. Tu sais, il y a du monde là, qui gagne une fois et quart ce qu'ils ont gagné comme salaire à leurs dernières années. Parce que ça continue de fluctuer avec tout ça. Je sais pas, est-ce que j'exagère ou...
Non,
c'est... T'sais? Ben, moi, il y a beaucoup de gens autour de moi qui, et moi le premier, là, qui pensent qu'on prendra juste jamais notre retraite. Moi, je pense que jamais je vais pouvoir prendre ma retraite.
Parce que t'es dans le domaine public, mais pense à tous ces milliers de fonctionnaires de l'État-là qui vont prendre des retraites.
Regarde ce qui se passe en France, en plus, c'est un bon point, parce que là, ils repoussent de 2 ans. On en a parlé ici, ça a monté aux barricades, puis finalement, on a décidé de pas bouger, mais pour l'instant, on s'entend qu'il y a un autre tenté,
ça va bouger. Ça fait 10 jours que c'est accepté. Il y a une manifestation encore de prévue aujourd'hui, là, qui devrait être encore très, très flamboyant.
Ça, c'est en France, mais ici, on a reculé. Là. Ici, on l'a évoqué, puis on l'a retiré des propositions. Raison. Ça va revenir, là, éventuellement, c'est sûr.
Il faut que... comment ça marche là, pour un fonctionnaire qui met, mettons, quelqu'un qui met 100 piastres de côté pour sa retraite? Le gouvernement, il met combien?
Ça doit dépendre des ministères, peut-être, non?
C'est la prestation déterminée, ça, en plus.
Des organismes.
Ça veut dire quoi, ça?
Ce que ça veut dire, c'est que tu as une garantie de rendement.
Ouais.
Ça veut dire que même si les marchés planquent, toi, tu as une garantie de rendement. Ouais. Mais si tu mets 100 piastres, puis le gouvernement met 100 piastres, ou même si toi, tu mets 100, puis le gouvernement met 200, j'exagère d'un montant, là, mais donc tu mets le double de ce que tu as mis, puis en plus que ton montant, il est garanti en bout de ligne, il y a quelque chose qui marche pas. Puis si le fonds dans lequel tu as investi, lui, fluctue beaucoup, au lieu de perdre, il augmente beaucoup, qui gagne le bonus, le surplus? Est-ce que c'est le gouvernement qui... Je veux juste pas que les enfants de mes enfants portent le poids de la retraite de tous les travailleurs de l'État. C'est aussi simple que ça. Donc, il faudrait qu'il y ait une limite de temps pour que l'État soit responsable des fonds d'argent versés aux gens qui retirent leur pension. C'est juste ça que j'essaie d'insinuer, là.
On va aller du côté de Laval, puisqu'on se demandait qu'est-ce qui se passait avec ce chauffeur d'autobus là, qui a embouti une garderie au début du mois de février. Donc, Pierre-Nie Saint-Amand, qui doit revenir devant la justice aujourd'hui. Le juge devrait recevoir le résultat d'une évaluation qui a été faite à l'Institut Philippe Pinel pour déterminer la responsabilité criminelle de l'accusé. On se rappelle, l'homme fait face à 9 chefs d'accusation, avait été jugé apte à subir son procès le mois dernier. Et le drame avait causé la mort de 2 enfants, en avait blessé 6 autres.
Moi, je vais terminer avec autre chose complètement. Là, on va se remettre un sourire au visage. En juillet prochain, Avenged Sevenfold, oui, sera de passage à Québec et à Montréal. Ça va se passer le 21 juillet au Centre Vidéotron. Alexis on Fire sera en première partie. Les billets vont être en vente jeudi matin.
Ça veut dire qu'on les a manqué de pas grand-chose au festival d'été.
Ouais, c'est ça. Là. Mais en même temps, tu sais que les compagnies privées vont négocier avant même que le festival d'été, c'est pas des fous à temps plein là.
Non, c'est ça.
Tu sais, il y a des années, juste avant la pandémie là, c'était Iron Maiden le dernier dimanche du festival d'été au Centre Vidéotron.
Ouais.
Ça avait été un hit monumental. Ouais. Donc ils essaient de signer des bandes. Tu sais, c'est de la compétition.
C'est bon pour tout le monde, la compétition.
Ouais, c'est bon. Mais là, moi, je vais commencer à manquer de journées pour aller voir des shows, par exemple.
Ah oui.
Journée bon, égale ça? Budget.
Ouais.
Ben c'est bon. Vas-tu être capable d'aller voir toutes ces choses?
Non. Tu fais des choix.
Tu sais, ça en vient, là? Qu'est-ce qui s'en vient récemment, là?
Depeche Mode, c'est quand?
Depeche Mode, c'est au mois d'avril. Il y a.
Il y en a un autre,
là. Disturb. Ça s'en vient.
Disturb, c'est au mois d'avril.
Shania Twain.
Mais c'est pas en fin de semaine, il n'y en a pas un, non? C'est les remparts en fin de semaine.
Ouais.
Il y a un show de musique qui s'en vient, là, puis j'ai dit, hey, je peux pas aller voir Peter Gabriel, c'est plus tard aussi.
Oui, c'est à l'automne.
À l'automne.
Kiss, Peter Gabriel, c'est à l'automne. Au mois d'avril, c'est vraiment Disturb et Depeche Mode. Puis le lendemain du show de Avenged Sevenfold, t'as-tu vu?
Non.
C'est Mike Ward qui vient
enregistrer son podcast. Sous écoute au Centre Vidéotron avant jeudi aussi.
Le 22.
OK. Fait que il va remplir ça, lui, là, pour un podcast.
Pas mal sûr.
C'est certain.
Je sais pas si c'est plein de capacité ou pas, mais ça a l'air que ça allait bien. Il l'a fait au Centre Bell.
Il l'a fait au Centre Bell. Le petit Jérémy, là, qui nous donne un coup de main dans le podcast, ça sortira pas d'ici.
Okay,
était allé voir ça.
Que tu mentionnes Jérémy puis Mike Ward dans la même phrase.
C'est vrai, mais c'est le surnom de mon ami. C'est le surnom de mon ami. Ça, c'est vrai, il n'y a aucun lien. Non, c'est vrai qu'avec Mike Ward.
Ça fait des tonnes de temps qu'on en parle. Là. C'est vrai qu'il n'y a pas de lien.
Il n'y a aucun lien entre les deux. Là.
Non, mais c'est quand même glissant, on en convient. Alors
oui, j'ai même pas pensé à ça.
C'est glissant comme un poisson chaud.
C'est dégueulasse.
Va y trouver un autre surnom, lui. Ça, il va pas pantoute.
C'est vrai. Mais bon.
Ça cause trop de confusion.
Au sport.
Au sport, oui.
Canadien a gagné 4-3 à Buffalo hier en tir de barrage. 30e victoire cette saison pour le tricolore. C'est Michael Pedzett qui a fait la différence. 6e tireur de la séance de tir de barrage. Il a célébré la Tiger Williams en se plaçant le bâton entre les pattes et en faisant semblant de s'en aller sur la patinoire en saluant la foule. Il semble que ça n'a pas plu à ses coéquipiers. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est associé à Dave Tiger Williams. Je pense que c'est ça qui n'a pas plu à ses coéquipiers. Ce soir, le Canadien est à Philadelphie pour affronter les Flyers. Et c'est Caden Primo qui sera devant le filet, puisque Kent Hughes, le directeur général, veut le voir devant le filet du Canadien d'ici la fin de la saison. Il a été rappelé. Il est même arrivé à Philadelphie avant ses coéquipiers hier. Ailleurs, Ligue nationale de hockey, les Islanders ont battu New Jersey 5-1. C'est un gain important pour les Islanders pour se donner un petit coussin d'avance au 7e rang de l'Association de l'Est en vue des séries éliminatoires. Hockey Midget 3, le bizarre du Séminaire Saint-François a perdu en deuxième prolongation hier 5-4 contre les Estacades à Trois-Rivières, ce qui fait qu'il y aura un cinquième et ultime match dans cette série qui aura lieu demain à Saint-Augustin.
Mais même s'il y a une équipe perdante, on ne sait pas si elle est éliminée.
Non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est tellement complexe.
Tu perds le ronde des séries, mais on ne sait pas si t'es mort.
Ça se peut qu'ils reviennent, là. Je pense qu'ils reviennent même. Mm-hmm. Non seulement ça se peut, là, mais... Fait qu'à un moment donné, ils vont faire un gagnant, là, mais tu peux perdre, là, en chemin.
Appelez-nous. Quand vous avez fait un gagnant, dites-nous-le, là.
Okay? Tu peux perdre de temps en temps, là. Et au tennis, bien, Félix a subi l'élimination contre Cerundolo. Félix avait une mauvaise journée dans le corps, pendant que Bianca Andreescu, malheureusement, en fin de soirée, a subi une blessure que l'on espère pas trop grave, mais elle a quitté sur une chaise roulante parce qu'elle s'est blessée à une cheville et a dû abandonner un match qu'elle disputait contre Madame Alexandrova.
À la météo, c'est une journée de une alternance de soleil-nuage. Aujourd'hui, on a 1 degré actuellement. On aura 3 au maximum. Demain matin, on se réveille avec moins 5 au thermomètre. Alternance de soleil-nuage. Une journée également où il va faire 4 degrés. Encore très, très similaire. Ce qu'il y a d'exceptionnel pour demain, mercredi, c'est qu'en fin de journée demain, ça va se couvrir, et ça assez rapidement. Et ça va commencer avec des averses de pluie. Et ensuite, ça se transforme dans la nuit en averse de neige, accumulation de 2 cm possible, donc. Et jeudi matin, on se réveille vraiment là avec des températures très froides. Je vois moins 7 degrés au réveil à 7 heures jeudi matin. Donc, plutôt froid. C'est pour ça qu'il y aura cette transition de la pluie vers la neige. Dans la nuit de mercredi à jeudi, oui, il y aura un peu d'accumulation qui seront faites au cours de ces prochaines heures.
Ben, c'est ça.
Alors, on est de retour dans Dupont le matin. Nicolas, tu me parles de quoi ce matin?
Je te parle du nouveau patron de Starbucks, qui est un homme d'affaires indien-américain qui s'appelle Laxman Narasiam.
Yeah.
Qui vient d'arriver, il était chez Pepsi. Il était haut placé chez PepsiCo depuis plusieurs années. Avant ça, il était chez une firme qu'on connaissait très peu jusqu'à il y a un an, je vous dirais, mais qu'on connaît très bien maintenant parce qu'on en parle quasiment au mois et demi ou aux 2 mois dans l'actualité. Il était chez McKinsey.
Alors, OK.
Fait qu'il a fait une vingtaine d'années chez McKinsey. Après ça, il a dirigé Pepsi. Et là, il est en intérim depuis la fin de l'année 2022, mais il va prendre le poste de PDG de Starbucks le 1er avril, justement, mm-hmm, en fin de semaine. Et dès son arrivée, il a pris 2 décisions que je trouve fort intéressantes et que je voulais vous partager. Puis si vous êtes...
Mais là, c'est Starbucks Canada uniquement.
Non, non, non. C'est Starbucks.
Okay.
Ouais.
Okay.
Il va remplacer M. Schultz, qui est le PDG actuel.
Et fondateur.
OK.
Donc, il a pris 2 décisions intéressantes que je voulais vous partager. Si vous êtes des hommes d'affaires, des dirigeants, ça peut être intéressant d'appliquer ça. Peut-être vous le faites déjà. Si c'est le cas, vous m'écrirez au 25-226. Donc, Monsieur Narasiman a décidé, quand il est arrivé, il a suivi la formation de 40 heures pour devenir barista.
Très bon.
Barista, c'est quoi ça?
C'est ceux qui tirent le café, qui font ton café chez...
Okay, un commis de comptoir. Mais,
ouais, mais en café, on appelle ça des baristas.
Ah ouais, vous autres, en café, tu dois en l'air.
C'est comme des barman qui sont devenus des mixologues.
Ah ouais.
C'est ça.
Voilà. 40 heures de mots.
40 heures de formation pour devenir
Un mixeur à café.
Et moi, je suis assez d'accord avec toi, Steph. Fait que...
Un curé qui fait des copes tout seul. vas-y, donne-moi un petit espresso.
Et ensuite.
Mais un latte et un cappuccino.
Ah oui,
c'est pas ma maman qui a un café. Ouais.
Et ensuite, il a dit qu'il ferait une demi-journée par mois au comptoir.
Très bon.
Okay.
À tous les mois.
OK.
C'est une excellente idée. C'est une excellente initiative. Ça permet, entre autres, un, de connaître la réalité de tes employés au bas de l'échelle. Ça permet aussi de connaître les exigences et les besoins des clients. Et c'est sûr que ça te rend un meilleur dirigeant d'entreprise.
Et plus que ça, je pense que les employés te font encore plus confiance parce qu'ils comprennent que tu peux vivre leur réalité.
Ouais.
Fait qu'il y a ça aussi plutôt que de dire ah ben oui, hein, le boss, on sait bien, il n'y a rien que dans son bureau, puis il voit pas ce qui se passe, puis il s'en sacre.
Oui. Mais il y a beaucoup d'endroits, là. Tu sais, dans les restaurants McDonald's, là, puis ou bien je le vois avec, mettons, ici au Thème avec Mauricio qui est toujours là, puis dans les McDo, là, les propriétaires, sur les heures de pointe, oh, ils sont là, puis s'ils veulent que ça fonctionne, ça part toujours des gestionnaires et des propriétaires. Et c'est très bien de s'impliquer à ce niveau-là, puis d'être un peu conscient de ce qui se passe sur le terrain. Les vaches, là, puis de voir vraiment comment les employés vivent ça. C'est plusieurs dirigeants appliquent déjà ça. Dans, je sais que le grand boss de chez une compagnie internationale, Crane, il fabrique des toilettes, il dit qu'il y va tous les jours.
Ah, c'est bon ça.
Aux toilettes?
Oui. Très bon, franchement. Oui.
Il est très proche de son produit. Qu'il dit.
Excellent ça. mais Starbucks, je suis un client assidu et mon café est jamais mauvais. C'est toujours réussi.
Mais il y en a un près de chez vous. Ah, c'est dispendieux, c'est ça?
C'est plus dispendieux, mais je suis jamais déçu.
Mais du bon café, c'est plus cher.
Jamais
ça
déçu.
Fonctionne de même. Selon la Harvard Business School, 6% des PDG passent du temps avec les plus bas employés.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, effectivement. Puis c'est encore moins ceux qui passent du temps avec la clientèle directe. Donc, c'est appliqué, mais pas
tant que ça. Mais ça dépend des niveaux.
C'est sûr,
parce
ça
qu'un
dépend
PDG,
des
tu sais, moi, j'ai un chum, aujourd'hui, il a pris sa retraite, là, mais il était propriétaire d'une entreprise. Tous les jeudis, ben, aux deux semaines, il allait lui-même encore, puis là, vous allez dire, oui, c'était du papier, c'est si. Il allait lui-même, en main propre, donner à tous les employés leur talon de paye. Tu sais, la paye est déposée automatiquement, mais le talon de paye, il allait lui-même lui dire, c'est moi qui ai signé ce montant-là. Tu sais, juste pour garder un contact, non pas un contrôle sur l'employé, mais tu sais, une certaine...
Qu'il te voit en face.
La reconnaissance, oui, exact. Retenir les noms, savoir à qui on parle, avec qui on travaille et comment ça fonctionne. C'est toujours des étapes très importantes dans le fonctionnement d'une entreprise.
Et on dit que dans l'article, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, puis qu'est-ce que les employés aimeraient avoir de plus dans les outils, les façons de faire, etc., etc.
Exactement.
Puis en étant sur le terrain, est-ce que tu vois vraiment ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas?
Oh oui, c'est sûr que t'es mieux que ton patron compétiteur qui, lui, va pas sur le terrain.
Et amener ça à un autre niveau où on verra jamais ça, puis où c'est quasiment interdit, et dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis 24 à 48 heures, c'est les changements proposés par Dubé en santé. Tu sais, puis les changements majeurs, puis là, hier, ça venait de partout, ça semblait assez unanime. Premièrement, c'est sûr que ce sera pas parfait. Vous le savez, je suis loin d'être le fan.